Et Manu me dépasse au niveau bière. Il ouvre sa troisième.
Moi, je fais une bière par film.
Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis votre hôte, je m'appelle Olivier Grinard et je suis bien accompagné avec mes amis Manuel Haas. Bonjour Manu.
Salut Olivier, salut Lucien.
Lucien Alflans est là aussi avec nous ce soir pour parler de trois films.
Salut Manu, salut Oli.
Nous allons parler de Drive Away Dolls, le film de Ethan Coen. Et puis, nous allons parler également de Black Flies ou Asphalt City, le film de Jean-Stéphane Sauveur. Et puis, nous finirons avec Le Mal n'existe pas, le film de Ryusuke Hamaguchi. Déjà, désolé parce qu'on a mis un petit temps pour revenir derrière les ondes, eu égard à nos emplois du temps personnels et aussi eu égard au fait que le calendrier des sorties, il n'est pas foufou depuis quelques semaines. Et d'ailleurs, le programme de aujourd'hui, il est un peu mi-fig, mi-molle, mais on va rentrer bientôt dans la période où il y a tout plein de films qui sortent. Pourquoi ? Parce que c'est le Festival de Cannes qui va bientôt commencer. Titi Frémo a annoncé la sélection officielle hier, le jour, enfin voilà, parce qu'on enregistre, mais bon, quand vous écouterez ça, ce sera plus tard. Mais bon, soit. Alors, je vous propose un petit jeu, vu que je n'ai pas de quiz, mais je vous propose un petit jeu et il faudra commencer vos phrases par Furiosa, une saga Mad Max de George Miller. Mais la question c'est, quel film attendez-vous ? Quel film attends-tu, Lucien ?
Alors, premièrement, désolé de te contredire un peu, mais les premières tours ont l'air de dire qu'il n'y aura pas beaucoup de films de Cannes qui sortiront pendant Cannes. Et l'été risque d'être extrêmement plat, puisque tous les distributeurs français ont déjà plus ou moins annoncé aux professionnels du métier qu'ils ne sortiraient pas ou très très peu de films cet été. Puisque s'enchaîneront les Jeux Olympiques à Paris, l'Euro et le Tour de France, hein, un peu de choses près. Donc je pense que à partir de juin et jusque mi-septembre, on va bien se faire chier.
Bon, on va revoir des classiques.
On va revoir des classiques. Il y a quelques films pour enfants qui sortent, il y a Vice Versa 2, etc. Mais ça va vraiment être un été très, très calme en termes de sorties.
Mais à part ça, est-ce que Titi Frémo a réussi à t'exciter un petit peu ?
Titi Frémo m'a titillé un petit peu avec la sélection d'une partie des Movie Brats, avec on va retrouver Coppola, Schrader et même George Lucas en séance spéciale, si je dirais en invité d'honneur, en palme d'honneur. Sinon, voilà, on se change pas. Il y a Zanke, un Cronenberg, même si je pense que l'œuvre récente de Zanke est plus intéressante que celle de Cronenberg. J'attends toujours les films de ces deux très grands réalisateurs.
Et toi, Manu ?
Moi, j'attends le Lanthimos, forcément, hein, tu t'en doutes.
Et le Claude Lelouch ?
Plus sérieusement, c'est souvent plutôt dans les sections parallèles ou pas forcément en compétition officielle. Excepté le Coppola, sur lequel j'ai à la fois beaucoup d'appréhension et beaucoup d'attente, mais j'admire quand même le geste artistique de Coppola de faire table rase et faire tapis à la fin de sa carrière sur un seul film. Donc rien que pour ça, j'attends beaucoup du film.
Pour nos auditeurs, on peut juste préciser que donc, le film de Francis Ford Coppola s'appelle Mégalopolis et que pour le financer, ce bon vieux Francis a mis un peu tous ses deniers, ou en tout cas une bonne grosse partie de ses deniers, puisqu'il l'a financé, autofinancé à hauteur de 130 millions de dollars.
Tu veux dire qu'il a déshérité Sofia ? Oh, c'est dégueulasse. Mais non, ça sera plutôt moins dans les sections parallèles, comme mon intérêt va se porter, particulièrement carrément dans des sections hors compétition, avec en séance de minuit le dernier film de Soi Chang, qui nous avait beaucoup impressionné l'année dernière ou il y a deux ans, selon comment le film a été distribué, avec Limbo. Et également, bien sûr, au-delà de la projection de Mad Max Furiosa, qui pour le coup sera...
Je crois qu'il est connexe à la sortie. Hein, genre,
il sera relativement connexe à la sortie. Ben, il y a surtout le grand retour au cinéma et au western de Kevin Costner avec le premier chapitre de sa saga américaine Horizon.
Ouais, d'ailleurs, il est prévu. Donc, c'est un premier chapitre qui dure 3 heures, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a déjà 2 chapitres de tournée, mais il en a prévu plus.
Oui, il en a prévu plus. Je crois qu'il en a prévu a priori 4. Ben, tout va être conditionné par le succès des 2 premiers chapitres, en fait.
Allez, bah super les gars. Bah,
Et toi,
ah bah, je suis le seul déjà qui va bien répondre à la question, puisque Mad Max Furiosa, un film de George Miller. Et au-delà de ça, j'attends bien sûr le film d'André Arnold qui est en compétition.
Ah oui, bien sûr. Pour créer un nouveau schisme au sein de Transmission.
Voilà, pour créer un nouveau schisme au sein de Transmission, puisque voilà, c'est son grand retour à la fiction après avoir. Enfin, moi, elle a quand même bossé sur une série, si je dis pas de conneries, qui s'appelait. C'est pas Top of the Lake, c'est l'autre. Bah, bon, bref, soit elle a bossé sur une série, puis elle a sorti son documentaire Cow.
Sur les vaches.
Voilà, sur les vaches. Mais donc voilà, j'attends. En compétition, en tout cas, c'est elle que j'attends le plus, je pense.
Pas le Christophe Honoré et le Quentin Dupieux, non ?
Non, pas
le
trop.
Claude Lelouch, on a dit.
Mais Claude Lelouch n'est pas en compétition, qu'est-ce que tu racontes, Lucien ?
Si, il est en compétition. Gilles Lelouch, pardon.
Mais oui, Gilles Lelouch.
Il n'a rien à voir avec Claude Lelouch, il l'a précisé.
Ça ne s'écrit même pas pareil.
Non, mais c'est tout aussi étrange.
Bon, allez, trêve de billevesée. Nous allons maintenant passer au film de Ethan Coen, Drive Away Dolls. I understand that you're unhappy, sir. We will find and deliver the package. We just want your friends. You cannot relate to the public, which in the service profession is a big handicap. Did the two creeps find you? They know we have their stuff. Maybe we sell it back. Shake them down. Are they like wanted or something? Oh no, they're not in trouble at all. Yeah, I'm gonna help you break a big murder case. That is about the dumbest thing I've ever heard. And I'm a cop. Who are you? Democrats. Wow, you've had a full day. À peu près un an après avoir découvert The Tragedy of Macbeth, donc qui a marqué les premiers pas de Joel Cohen en solo, nous retrouvons donc maintenant son frère cadet, Ethan, avec son premier film, donc sous son nom seul, puisqu'il est crédité seul à la réalisation de Drive Away Dolls. Mais par contre, il l'a coécrit avec sa femme à la ville, Tricia Cook. Le film est interprété par Margaret Qualley, qu'on avait découvert dans Once Upon a Time in Hollywood. Et il y a aussi Geraldine.
Dans Nice Guy de Shane Black.
Ouais, enfin bon, elle avait un petit.
Bref, tout aussi. Un rôle tout aussi.
tout aussi minime. Mais je crois qu'elle était dans Le Clair de Nîmes où elle avait un grand rôle que je n'ai pas vu. Mais Lucien peut-être l'a vu avec toute son admiration pour Claire Denis. Il y a aussi donc au casting Géraldine Visna Nathan, Pedro Pascal et Matt Damon, entre autres. Et l'histoire, c'est quoi ? C'est donc l'histoire de Jamie et Marianne, qui sont 2 copines qui doivent convoyer une voiture au cœur des USA, avant de se rendre compte que celle-ci contient une mystérieuse mallette convoitée par une galerie de personnages bigarrés. Et voilà, c'est un résumé tout pourri parce que je n'ai pas vu le film. Mais Manu et Lucien vont nous en parler. Manu, qu'as-tu pensé de Drive Away Dolls ?
Pas grand chose, parce que c'est.
Merci, Lucien.
L'exercice critique va être un peu compliqué, à part de déverser toute l'incompréhension que j'ai vis-à-vis de ce film qui me paraît absolument daté, ringard. C'est vraiment un film qui semble sorti d'une autre époque, qui se veut drôle, mais qui fait ça de manière toujours extrêmement caricaturale, forcée. Aucune de ces envolées comiques ne fonctionne, tout simplement parce que, et c'est là où peut-être on va rentrer dans un aspect peut-être plus intéressant que juste cet avis un peu lapidaire sur le film, c'est de voir ce qui séparait le duo Joel Cohen et Ethan Coen, et qu'effectivement, après avoir vu le film solo de Joel Cohen, Ben, la mise en scène de Joel Cohen, elle était bien présente dans The Tragedy of Macbeth. Là, ici, en fait, on a un scénario qui semble sorti quand même d'une période un peu passée en fait, du cinéma des frères Cohen, et qui arrive un petit peu tard, au niveau de ses, à mon sens, à la fois au niveau de ses enjeux politiques, sociaux, si on veut parler de ça, mais même en termes de tempo comique, ça ne fonctionne même pas, à mon sens, même sur le scénario. Mais le pire, c'est que c'est jamais élevé par la mise en scène. C'est les cinq premières minutes, je pense, ce qu'il y a de pire dans tout le film, ce qui te met de manière extrêmement caricaturale le personnage de Pedro Pascal qui est poursuivi par un tueur. Alors, tout est surjoué, donc on te met, t'as le droit à des Dutch angles dans tous les sens, de filmer de traviole. C'est pas possible, en fait. C'est juste un film qui semble sorti d'un autre temps, qui se voudrait poil à gratter, qu'il ne l'est pas du tout, parce que tu as cette dimension de road movie lesbien que tu penserais un petit peu habité, puisque Tricia Cook, la scénariste et la monteuse des films de Farquhar Cohen, et la femme à la ville d'Ethan Cohen, a assumé publiquement d'être homo il y a, une dizaine d'années. Donc, même sur cet aspect-là, en fait, le film... ouais, ne n'apporte pas grand-chose. C'est juste intéressant pour se dire que peut-être la partie peut-être effectivement loufoque des récits des frères Cohen doit beaucoup à Ethan Cohen. Mais en revanche, il a quand même besoin d'un réalisateur pour magnifier ses scénarios, quoi. Et là, c'est pas du tout le cas.
Bah ouais, Manu vient de résumer exactement mon avis sur cette dernière phrase. C'est vraiment, je pense que le film vaut pour replacer, je veux dire, l'influence, hormis peut-être l'influence infrastructurelle, on sait que c'était plutôt lui qui produisait les films, enfin bon voilà, mais au niveau créatif, voir l'influence d'Ethan Cohen sur l'œuvre précédente des frères Cohen, en effet, sur le côté loufoque, et il y a même, rétrospectivement, on peut se dire qu'il y a certains gags dans certains de leurs précédents films qu'ils ont fait en commun, parfois très bons, parfois moins bons. On se dit, ok, là, ça devait être une idée d'Ethan Cohen, parce qu'on peut y trouver plein d'accointances.
Bah, tu vois, t'as l'impression de voir quand même Joel Cohen dans un côté très cérébral, après, beaucoup plus cérébral, mais même quand tu le vois en interview.
Plus simplement, metteur en scène.
Et Ethan Cohen comme un peu le trublion de leur duo. Mais même moi, là où... Tu disais effectivement, Ethan Cohen était souvent crédité à la prod des films, mais il était aussi le monteur des frères Cohen. C'est un film qui n'a pas de rythme, au-delà des problèmes de mise en scène. Chaque raccord entre chaque scène, et le pire, c'est que c'est des raccords en fait qui sont écrits au scénario.
Mais c'est des raccords qui sont proposés automatiquement dans Final Cut, quoi. On sait qu'ils montent sur Final Cut, mais bon, voilà.
C'est une catastrophe, quoi.
Ouais, moi, j'ai vraiment eu le sentiment, en regardant le film, je me suis dit, on dirait un comique des années 80 qui aurait essayé de se reconvertir sur le tard à des études de cinéma, et ce serait son film de fin d'études, quoi. C'est vraiment un film qui tente des trucs soi-disant un peu osés, mais c'est juste moche, ni fait ni à faire, et l'ensemble est comme le disait Manu, mais extrêmement ringard. C'est daté à crever, que ce soit dans le propos, que ce soit dans la forme, que ce soit à tout niveau, dans l'humour, dans la représentation du lesbianisme, enfin à tout niveau. C'est un film qui est complètement hors de son temps, qui a très peu d'intérêt, si ce n'est, comme on disait, de le recontextualiser dans la carrière des frères Cohen, et de se dire que le film aurait pu apporter un titre qui se serait rapproché d'un chef-d'œuvre de Peckinpah. Ouais. Le film aurait pu s'appeler Bring Me the Head of Pedro Pascal.
C'est même assez étonnant, parce qu'en fait, chaque séquence, en fait, tu la compares à un autre film des frères Cohen.
Ouais, ouais.
À chaque fois, en plus réussi, c'est là où c'est un peu inquiétant. C'est de voir de chaque scène, tu envoies les déclinaisons, le trip psychédélique catastrophique à balle de vieux filtres Photoshop et des apparitions de Miley Cyrus au milieu de ça. Tu te demandes ce qu'elle fout dans ce récit-là, complètement grotesque. Ça peut évoquer un peu les moments un petit peu féeriques, on va dire, de The Big Lebowski. C'est un petit peu, tu sens le registre psychédélique qu'il essaye d'approcher. Mais il n'y a juste pas de mise en scène, quoi. C'est juste un effet de filtre, de couleur, et puis un personnage qui avance à l'avant-plan avec de la musique et qui rythme comme ça de manière complètement anarchique le récit, quoi.
Ouais. Même à ce niveau-là, enfin, je veux dire, je dis peut-être une connerie, j'ai pas revu le film depuis quelques années, mais dans The Big Lebowski, c'était Bob Dylan sur cette scène, Là, il reprend, j'adore Funkadelic, c'est pas la question, mais même ces choix-là, en fait, t'as l'impression que c'est les choix d'un gars qui vit plus dans, qui a pas bougé avec le monde, quoi. Il est resté quelque part dans les années 80, là où je pense leur film en commun, No Country for Old Men ou ce genre de choses, même plus tard, c'est des films qui avaient encore un ancrage dans le monde contemporain. Là, on est vraiment face à une représentation d'un monde qui n'existe plus, quoi.
Mais ça fait penser en plus, un petit peu à certains films dont ils ont saigné que le scénario, que ça soit Gambit ou que ça soit là ce film The Naked Man, etc. Ces films-là qui étaient des sortes de déclinaisons de leur univers, mais où tu voyais justement que leur univers décliné sans la mise en scène des Coen derrière, ça ne fonctionne pas.
De Joël derrière, en fait.
C'est ça, quoi. Donc, et pour préciser. Je suis dur et on est dur avec le film parce qu'on a une grosse affection pour le cinéma des frères Coen qui ont pour moi une des plus grosses filmo américaines de ces 20-30 dernières années. Mais je serais aussi critique si ce n'était pas un film signé Ethan Coen. C'est vraiment un mauvais film, en fait.
Eh bien, après avoir mis au pilori monsieur Ethan Coen, nous allons, sans plus tarder, parler de Black Flies.
You believe in heaven? I don't know if I believe in heaven. But I believe in hell.
One, two, three. How long you been on the job?
A few weeks.
This guy from Colorado. I'm putting him in with Russ.
I usually get here 10 minutes early. I like to ride with partners who do too.
Yes, sir.
To me. They'll die if you don't tune me.
Go, go, go.
You think these people like you?
Get outside with the dog. We're trying to treat them.
I mean, yes, Mati.
You think you're saving people?
I give you about 2 weeks.
What's going on? 30-year-old female. She just gave birth. Took some heroin for the pain. How's the baby?
I told them it was a mistake.
Get away from me.
Seriously, man, be careful.
We all work in the darkness.
Alors, Black Flies, ou dans certaines contrées Asphalt City, notamment chez nous en Belgique, c'est le nouveau film du français établi aux États-Unis, Jean-Stéphane Sauvert, qui avait signé avant cela Johnny Mad Dog et aussi Une prière avant l'aube que nous avions chroniqué ici il y a quelques années. Alors, c'est l'adaptation d'un livre paru dans les années 90 qui s'appelle Black Flies aussi, signé Shannon Burke, mais qui était sorti en France sous le titre 911, ou plutôt 911. Puisque c'est quoi en fait l'histoire ? C'est une histoire d'ambulancier, un film qui se déroule à New York. Le personnage principal s'appelle Cross, c'est un jeune ambulancier qui fait ce job en espérant pouvoir intégrer des études de médecine par la suite. Et d'ailleurs, donc, il économise de l'argent en vivant dans un deux pièces tout pourri à Chinatown. Et il fait équipe avec Gene Rutkowski, qui est dit Rut. Tout le monde l'appelle tout le temps Rut. Et lui, il est interprété par Sean Penn. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Donc, Ty Sheridan joue Cross. Il y a aussi Sean Penn. Il y a aussi Michael Pitt, qui était donc le Kurt Cobain de Gus Van Sant il y a quelques années. Et il y a aussi Catherine Waterston, donc, qui était dans le film de PTA qui s'appelait adapté de
Thomas Pynchon.
Thomas Pynchon, ouais, tout à fait. Je ne sais plus, je ne reviens plus dessus. Inherent Vice. Et il y a aussi Mike Tyson qui joue dans le film et qui ne joue pas son propre rôle.
Qui joue bien, contrairement à ses rares apparitions au cinéma.
Ouais, ça se discute. Voilà, donc c'est moi qui vais commencer sur Black Flies. Le film était en compétition à Cannes en mai dernier et il s'est pris une bonne volée de bois vert. Mais nous, on va être un peu plus mesurés, je pense. Enfin, voilà, c'est un peu le système cannois qui fait qu'on est tombé à bras raccourcis sur ce film qui a certaines qualités.
Chaque année, il y en a un.
Ouais, voilà, c'est clair.
Je pense qu'il y a une configuration de plein de choses sur la réception cannoise, à la fois ce qui s'est enclenché depuis quelques années avec les films de Sean Penn ou avec Sean Penn. Je pense que ça fait partie un petit peu du deal de la réception cannoise. Mmh. Et je pense aussi de ce qu'est réellement le film, de ce que montre le film d'une certaine Amérique qu'on ne voit plus trop aujourd'hui au cinéma. Et je pense qu'il y a eu certaines confusions entretenues à ce moment-là sur le film, son rapport à au monde, la société, c'est des accusations un peu de racisme placées sur le film qui me semble un peu déconnectées de ce qu'est le film et ce qu'en fait peut-être les gens ne veulent pas voir, ne sont plus habitués à voir au cinéma.
Bah, faudra que tu développes, Manu, c'est dommage que ce soit à moi de commencer en fait. Mais donc, ouais, je comprends pas très bien où est-ce qu'on peut taxer ce film de racisme, mais bon, soit. Moi, il y a des choses que j'ai globalement apprécié le film. Je trouve que Jean-Stéphane Sauvert maîtrise assez bien une forme de mise en scène un peu du chaos dont on était plus habitué, j'ai l'impression, il y a une dizaine d'années. Je pense notamment au film de Catherine Bigelow, enfin certains films de Catherine Bigelow comme Des mineurs par exemple, certains films de Paul Greengrass. Donc c'est-à-dire une espèce d'impression de documentaire, impression de réalité, une caméra qui bouge énormément, qui va choper des petites choses, des petites informations à droite et à gauche dans une espèce de, voilà, en tout cas une impression de chaos. Je sais pas à quel point c'est maîtrisé, mais bon, ici ça fonctionne plutôt bien. En fait, le film réussit très bien à te plonger justement sur le bitume, sur l'asphalte, directement avec les ambulanciers. Il arrive très très bien à te donner cette impression de réel, à te donner cette impression d'y être en fait. Il y a énormément de petits détails qui sonnent juste.
Mais parce que justement, c'est pas... Pour faire une petite nuance, parce que tu parlais du cinéma de Greengrass, à mon sens, souvent singe le réel par des effets de caméra portée, de manière de secouer la caméra. Là où, effectivement, on a beaucoup de caméras portées dans le film de Sauvert, mais c'est surtout la précision du détail, de l'arrière-plan, des personnages, etc., qui donne ce sentiment de réalisme. C'est pas vraiment dans le même type de cinéma. Je le séparerais un petit peu de ce que tu disais par rapport
mais
au cinéma de
Greengrass.
Mais je te
parle juste de l'utilisation de la caméra. T'as bien compris ce que je voulais dire.
Mais justement, chez Greengrass, on est dans une logique de tournage multicaméra avec un effet de réel qui est principalement recomposé en fait en post-production, en agitant de manière artificielle la caméra. Là où chez Sauvert, on est plus dans une logique de plan-séquence qui est effectivement recomposée au montage, mais qui n'opère pas du tout de la même manière.
Mais soit. Donc là, je trouve que le film est assez réussi. On est vraiment collé à ce personnage de Cross qui est quand même assez épais, tout de suite attachant. Et je trouve que dans son côté chronique, en fait, le film fonctionne plutôt très bien. Il y a toute une galerie de personnages qui sont voilà, très typés, dont on se souvient de beaucoup. Il y a en plus, les scènes sont diversement tragiques, en fait. Enfin, la globalité du film est plutôt sur le ton du tragique et du grave, mais il y a de temps en temps des personnages qui vont apporter une touche un petit peu plus voilà, décalée ou de légèreté qui va faire que finalement tout n'est pas aussi ras du bitume que l'impression d'ensemble que le film peut donner. Sur ce côté-là, je trouve que le film fonctionne assez bien et Sauvert, il est assez doué aussi pour augmenter très très vite la tension au sein des scènes, notamment donc en utilisant cette caméra qui est toujours en mouvement et aussi le recours au son, le travail du son. Je pense notamment à une scène où donc les ambulanciers vont chez un mari violent quoi, et il utilise le son du métro à l'extérieur pour apporter de la tension dans sa mise en scène. Et en fait le côté oppressant de cette scène monte très très vite comme ça avec vraiment assez peu d'éléments finalement. Là où je trouve que le film fonctionne moins bien, c'est quand il essaye de faire rentrer davantage de narration en fait. À la fin, vers le dernier tiers du film, on va dire, il y a un thème qui apparaît beaucoup plus clairement dans le film, qui serait sur le statut, plus ou moins le choix qui pourrait revenir à ces ambulanciers de pouvoir décider de la vie ou de la mort des personnes qu'ils secourent. Et je trouve que ce thème-là, il aurait pu être intéressant, mais je le trouve trop peu traité ou un peu maltraité, un peu je trouve que le film est pas juste là-dessus, alors que il en fait un peu des caisses sur dans son dernier tiers, et c'est enfin voilà, moi ça m'a un peu gâché le plaisir, quoi.
Je suis pas d'accord en fait que le film, parce que je suis relativement d'accord sur plein d'aspects avec toi sur ce que tu as déjà dit, donc je vais pas faire une redite sur ça, mais pour préciser sur justement cet aspect de ce qui se déploie dans le dernier tiers du récit, je suis pas d'accord. En fait, il le travaille beaucoup plus tôt, en fait. Mais il le travaille par une imagerie, notamment une imagerie qui a trait à une imagerie religieuse, puisque c'est assez explicite. Il convoque toute une imagerie religieuse autour de l'archange Michael. Donc tu as à la fois les ailes que sur le blouson de Ty Sheridan quand il arpente les rues de Chinatown, carrément un tableau, je crois, de l'archange Michael dans
sa chambre.
Dans sa chambre. Et donc tu as déjà cette idée de ce personnage qui est chargé de faire le lien entre la lumière et les ténèbres. Donc ce personnage qui est déjà dans cette forme d'entre-deux. Qui pèse la balance des âmes. Donc ça, c'est déjà présent d'une certaine manière. Et malgré toute la noirceur de tout le film, c'est un film qui a un chemin quand même vers la lumière d'une certaine manière. Ce qui est assez magnifiquement, à mon sens, traduit dans le tout premier plan du film, qui est un plan où tu vois le visage en gros plan de Sheridan dans cette ambulance. Pendant tout un temps, ses yeux sont clos. Et tu pourrais avoir l'impression en fait, que c'est Ty Sheridan qui a emmené lui-même aux urgences, qui s'achemine vers la mort, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et que tu comprends qu'il y a l'arrière d'une camionnette d'ambulance prêt à intervenir. Et donc, tu as cette bascule de ce personnage-là qui, à un moment, vit dans l'obscurité et va tout d'un coup rouvrir les yeux. Et c'est ce chemin-là qui va faire, puisque d'une certaine manière, il va être condamné à rester dans ce monde-là, puisque tu as carrément une scène, là aussi, avec une imagerie religieuse assez, assez forte, le dernier échange qu'il a avec la femme qu'il fréquente. C'est vraiment filmé comme une vierge à l'enfant. Ils sont séparés par une grille, tu as l'impression d'être dans un confessionnal. Et toute cette idée où tu sens un manquement dans le film, pour moi, elle est traduite en filigrane tout au long du récit, mais par une imagerie. Ce n'est pas quelque chose qui se traduit dans le scénario en tant que tel. C'est vraiment véhiculé par la mise en scène. Et pour moi, ça ne me paraît pas étranger tout d'un coup, la bascule qui s'opère de manière narrative réellement à la toute fin du film, avec un des destins tragiques d'un des personnages, quoi.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a toute une série de signes qui, en effet, peut-être annoncent cette fin, enfin, en tout cas, le dernier tiers où ce thème est ramené de manière beaucoup plus frontale, mais n'empêche qu'il est ramené de manière extrêmement frontale, et l'imagerie religieuse est aussi extrêmement frontale dans tout le reste du film, quoi. Donc, t'as le blouson avec les ailes, à un moment, t'as carrément un plan où le personnage de Cross déploie ses ailes alors qu'il n'en a pas vraiment besoin, quoi. C'est vraiment un film qui est là pour l'imagerie, quoi. Enfin, un plan qui est là pour l'imagerie, tu vois.
Ouais, après, moi ce que j'apprécie quand même beaucoup dans le film, et ce qui était déjà le cas des autres films de Sauveur, c'est cette forme, à mon sens, d'hyper-réalisme qui travaille, où il arrive à te faire ressentir les matières, les corps. Tu parlais du travail sur le sound design qui est juste dingue dans la manière de t'immerger au cœur des scènes. Et cette idée, en fait, où tu te rends compte qu'en fait, ce qui me manque beaucoup dans le cinéma américain, c'est ce cinéma qui raconte, en fait, l'héroïsme des petites gens. C'est un cinéma vraiment de blue collar qu'on ne voit plus, en fait. Et c'est pour ça, quand je te parlais d'amalgame, à mon sens, qu'on a fait sur le film, notamment sur cette idée de regard raciste qu'aurait Sauveur, ou que le film aurait sur la société américaine, tout simplement parce que les gens pris en charge appartiennent à une certaine communauté ou à une certaine représentation de la population américaine. C'est d'une connerie sans nom, c'est juste de la sociologie. Mais juste, je pense qu'on n'est plus du tout habitué à filmer cette Amérique-là. C'est vraiment un film qui témoigne de l'Amérique d'aujourd'hui. Ce que quasiment plus le cinéma américain. On avait parlé l'ambition, par exemple, d'un film de comme celui de Chloé Zhao, qui était
Nomadland.
Mais le problème, c'est que ça sentait la vanille. Moi, c'est un film très carte postale. Je sens pas l'âpreté de la vie de ces gens-là. Là, pour le coup, je la ressens, tu vois.
Mais t'as pas ressenti un côté exagéré quand même dans le film, un peu le nez dans la crasse comme ça, un peu genre. Moi, j'ai senti quand même une certaine lourdeur et une certaine répétition.
Oui, il y a sûrement. Oui, c'est un film qui pêche peut-être par moment par un aspect peut-être démonstratif, effectivement. Mais c'est tellement rare, en fait, ces films-là. Tu vois, même quand je repensais au film, je me disais quels sont les films américains qui m'ont redonné à voir un petit peu un New York ou une part d'Amérique que je n'ai pas vue depuis un bon bout de temps. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le film des frères Safdie, Uncut Gems, que je n'aime pas forcément trop, mais qui tentait ça. À mon sens, il se perdait parce que justement, c'était un film qui avait un sens de la topographie assez problématique, mais il tentait malgré tout ça. Ils sont rares, en fait, ces films-là. Et je trouve que de ce point de vue-là, le film de Sauveur est un film assez précieux, quoi.
Très bien, mais moi, j'ai rien à ajouter sur le film. Lucien, tu as quelque chose à dire malgré le fait que tu n'aies pas vu le film ?
Non, c'est vrai que votre discussion me rend curieux. J'avais plutôt aimé les deux précédents films de Sauveur. Votre discussion me donne davantage envie de voir celui-ci, me donne encore plus envie de voir celui-ci. Je trouve que, ça n'a rien à voir avec votre discussion, mais je trouve qu'on en a trop fait avec Sean Penn à une époque, bien que son film sur le Darfour soit une purge innommable. Mais on oublie parfois que c'est vrai qu'il a fait très peu de bons choix dernièrement, mais ça a été un grand acteur et ça a été un très bon réalisateur. Il n'est plus ni l'un ni l'autre aujourd'hui, je pense. Mais voilà, j'ai toujours eu de la sympathie pour ce gars-là. Et je trouve que je comprends l'acquaintance qu'il peut y avoir en les écoutant parler entre Sean Penn et Sauveur.
Là, il n'est pas très très bon, je trouve, dans le film. Par contre, Ty Sheridan est très bien, je trouve.
Il est souvent très bien.
Très bien, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le film de Jean-Stéphane Sauveur et on va passer au dernier film de la soirée qui est Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi.
Je sais.
Voici donc venu le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi, le réalisateur japonais qui avait été révélé par Senseis et Asako 1 et 2 il y a quelques années, et puis ensuite adoubé sur la scène internationale du cinéma arrêté par le succès de Drive My Car. Nous avions ici même parlé d'un film dont le titre était, je crois, Conte de l'amour et autres fantaisies, mais je ne suis pas sûr à 100%. Ici donc, il revient avec un film qui a obtenu le Grand Prix au Festival de Venise. Je pense que c'était le Lion d'Argent, le meilleur réalisateur, mais je suis non plus hyper sûr, voilà, parce que j'ai pas bien préparé mon émission. Je suis désolé, chères auditrices, chers auditeurs. Donc ici, il a co-signé le scénario avec la musicienne Eiko Yishibashi, qui signe du coup aussi ici la musique du film, qui est particulièrement remarquable, au sens propre. Voilà, l'histoire c'est quoi ? C'est l'histoire d'un monsieur qui vit dans les bois, qui s'appelle Takumi, et qui a sa fille Anna, on ne sait pas où est, qui a genre 8 ans, je crois que c'est dit dans le récit, on ne sait pas où est la maman, donc il vit dans un village dans les montagnes au Japon, et il coupe très bien le bois. Et un jour, il y a des promoteurs immobiliers qui arrivent parce qu'ils veulent implanter au sein du village...
Glamping.
Voilà, glamping, un espèce de complexe de tourisme, de glamping, donc une contraction entre glamour et camping.
C'est la version d'un film de Franck Dubosc tourné par Visconti, c'est ça?
Ouais, on en est quand même loin, donc on est très loin de Franck Dubosc et aussi de Luchino Visconti. Voilà, et donc il va y avoir des petites tensions entre les habitants du village et ces personnes qui viennent pour installer ce complexe de glamping. Voilà, après ce résumé un peu hasardeux, monsieur Lucien Alflans va nous donner son avis sur le film.
Et nous empêtrer dans le hasard. Non, ben je trouvais que c'était un film extrêmement
lent,
décousu, limite parfois un peu difficile à suivre malgré le fait qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Mais j'y ai retrouvé une musicalité qui me plaît chez ce réalisateur. Dans son précédent film qu'on avait chroniqué, dont je ne vais pas me risquer à répéter le titre, mais où il était question de hasard, d'amour et de fantaisie, on avait des sketchs, je vais dire, de qualité inégale, dont certains étaient absolument sublimes et d'autres plus compliqués. Et en fait, ici, dans le tout que représente ce film, je trouve qu'il y a des instants, des moments, des scènes, des séquences qui sont incroyablement maîtrisées et qui sont parfois un peu perdues dans un film qui manque de structure, à mon sens. Même si je ne peux pas tout à fait l'objectiver, je veux dire, c'est un horrible mot pour parler de cinéma, mais voilà, je trouve qu'il y a une scène de, je ne sais pas, peut-être 7 minutes où on voit un mec débiter des bûches et puis les fendre. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'adore débiter des bûches et les fendre, mais j'ai trouvé ça fascinant à regarder. Il y a une scène de confrontation, on va dire, entre ces promoteurs et les habitants de ce bled, qui est d'une folle tension, d'une folle intelligence, je trouve, d'écriture. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est un film qui, malgré sa lenteur et son manque de structure, son manque de tenue, est un film qui est très loin d'être désagréable à regarder.
Bon, ben moi, je vais enchérir de manière peut-être un peu plus positive encore que toi. Moi, j'ai vraiment été séduit par le film. En effet, c'est un drôle de truc. Donc, au début, tu as peut-être un quart d'heure, 20 minutes où il se passe un peu rien, où tu es avec ce gars qui débite des bûches. Il y a sa fille qui marche dans la neige, qui regarde la nature.
Qui remplit des jerrycans d'eau.
Voilà, le gars remplit des jerrycans d'eau. Et tu regardes ça et tu te dis...
Il les ramène à sa voiture.
Et qu'il repart.
Il les ramène à sa voiture. Il re-remplit ses bidons, il repart.
Ouais, et tu te dis, mais... Est-ce que vraiment, Ryosuke Hamaguchi va me montrer le mec qui repart de la voiture vers la rivière pour reprendre les jerrycans d'eau, pour les remonter, et il n'est pas loin de le faire exactement de la même manière. Enfin, en tout cas, il fait vraiment durer le truc. Mais bon, tout ceci va être revisité, va se resservir aussi par la suite. Et donc, du coup, il y a une forme de justification de la lenteur de ce qu'on a vu au début par la suite. Mais il y a aussi une justification qui est thématique. C'est-à-dire que par la suite, donc, le film va introduire ces intrus qui sont donc symbolisés par les deux personnes, les deux promoteurs, enfin, l'homme et la femme qui représentent ces gens qui veulent installer le glamping, et donc qui sont là comme des intrus et qui vont essayer de s'intégrer à l'espace qu'on a vu habiter avant par ce type. Et c'est là-dessus sur cette tension-là que le film joue. Moi, il y a plein de trucs que j'ai trouvé super intéressants dans le film, notamment, t'en as parlé, la scène avec les promoteurs. Je trouve que, en fait, le film me surprend tout le temps. C'est ça le truc. Il me surprend tout le temps dans son étirement, dans la manière dont il va faire intervenir les musiques ou les couper. En fait, il suscite constamment mon éveil, mon intérêt. J'essaye d'interpréter un peu tous les signes parce qu'il y en a très peu. On vient de parler du film de Sauveur où qui fonctionnait plutôt par addition. Ici, c'est un film qui fonctionne plutôt par soustraction, avec soustraction d'action, soustraction d'éléments type musicaux. Et,
reste du cinéma à effet aussi.
D'une certaine manière, ça peut l'être, mais tu vois, je sais jamais très bien sur quel pied danser, je sais jamais très bien quand est-ce qu'il va couper. S'il coupe pas, alors que tu t'attends à ce qu'il coupe, qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc je suis toujours constamment intéressé par ce qui va se passer derrière. Par exemple, bêtement, à la fin, une des femmes reste dans la maison alors que les deux hommes partent à la recherche de la petite fille. Et il reste avec la femme et je ne sais pas pourquoi. T'as la bouilloire qui s'anime, on va dire. Et du coup, je comprends qu'il veut me faire exister davantage cette femme, le personnage féminin. Je trouve que la manière dont il fait exister chacun de ces personnages, c'est assez beau.
Est-ce qu'il les fait exister ou il fait juste durer les plans?
Mais moi je trouve qu'il les fait. Non, ça tu peux pas dire le contraire. T'es surpris par la tournure du récit parce qu'une fois qu'il y a la confrontation entre les villageois et les promoteurs, tu t'attends quand même à rester du côté des villageois. Tu t'attends pas à ce que le film se déploie d'un coup du côté des promoteurs et te fasse complètement revoir ta vie.
C'est la seule bascule du récit. Olivier, en fait, concrètement, là, t'es déjà à plus d'une heure du film, parce que vu que ça prend déjà 20 minutes à remplir les jerrycans, c'est ça la réalité du film, tu vois. C'est qu'à un moment, moi, autant j'avais été beaucoup séduit par son précédent film, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un bel équilibre dans, à la fois dans la manière de dialoguer, ces échanges amoureux, et ce travail sur l'étirement justement des scènes. Là, pour moi, cet étirement des scènes, il m'a paru extrêmement artificiel. Je l'ai vraiment senti comme un effet de mise en scène récurrent. Vraiment, tu sens scène après scène, ça va être l'idée. On va étirer les plans, on remplit le jerrycan, on coupe le bois. Mais aussi les longs plans non stabilisés, dégueulasses, à l'arrière de la bagnole, où on va suivre la bagnole.
C'est vrai qu'il y a des trucs assez dégueulasses d'un point de vue technique.
Ouais. C'est moi la problématique que j'ai, c'est qu'en fait, je ne m'intéresse pas en fait, à ce film-là, je le regarde de l'extérieur, parce que je ne vois que des effets, je ne vois que des dispositifs, et en plus, pour moi, il y a une grosse contradiction dans tout ça, c'est que ce travail sur la lenteur, il se finit dans une précipitation immense à la toute fin du film, absolument pas satisfaisante. T'es à la limite du gonzo à la fin. Et c'est pour moi la vraie problématique en fait du film. Et voilà, je trouve le film raconte pas grand chose, le raconte de manière extrêmement sentencieuse en fait, limite caricaturale, parce que moi je suis désolé, la seule scène qui est un peu que je sauverais, c'est la scène effectivement de la première scène de confrontation avec au village, qui fonctionne pour moi sur un registre un peu semi-comique, même s'il enfonce beaucoup de portes ouvertes, parce que tu sais quand même, tu vois quand même l'issue de la réunion, mais elle marche par un sorte de petit dispositif comique dans la manière dont chacun va prendre la parole, etc. Comment les personnages sont croqués au sein de la scène, là, ça fonctionne bien.
C'est bien écrit, ouais.
Il a un vrai sens du tempo, et c'est pourtant, pour le coup, la scène qui joue le moins de cet aspect « j'étire ».
Mais quand même, elle est super longue, cette scène. Hein.
Oui, mais elle se tient.
Je trouve ça vraiment une excellente
scène. Elle se tient. Parce que tout simplement, moi, ce que j'aimais dans son précédent film, c'est effectivement, il y avait la longueur, mais il y avait du dialogue, il y avait des échanges entre les personnages. Là, je vois des plans qui s'étirent. Ces longs plans en bagnole, qui pour moi, tu les enlèves du film, c'est vraiment des affaîtris. Et des fois, j'en parlais, parce qu'on a vu le film ensemble avec Olivier en sortant du cinéma, des coquetteries visuelles qui tiennent même pas en fait, la route en termes de dispositifs de mise en scène. La scène où il récupère, où il va chercher sa gamine à l'école, c'est des points de vue de mise en scène qui ne tiennent pas, qui sont incohérents avec ce que le plan a mis en place auparavant et ce qu'il déploie par la suite. Il faudrait voir le film parce que c'est très complexe d'en parler comme ça, juste sans avoir un visuel pour attester ça. On va parler juste techniquement de points de montage, mais je veux dire, où chaque plan, le point de montage, c'est le personnage va rentrer dans le champ, traverser tout le champ parce qu'on est en plan large, puis ressortir. Et tu vas couper uniquement 2 secondes après que le plan soit terminé. Et il y a une facilité de mise en scène et de montage qui, à un moment, m'épuise. Autant c'était une qualité dans son précédent film, là, pour moi, ça commence à tourner sérieusement en rond.
Lucien, vas-y, sauve-nous un peu.
Je trouve que Manu est dur. Après, je comprends certains de ses arguments. En fait, je comprends que si tu t'arrêtes à ça, tu vois plus que ça et tu passes à côté de tout ce qui peut être intéressant.
Ouais, mais concrètement, il y a quoi dans le film à côté ?
Bah, déjà, comme je te dis, il y a une, comme je disais tout à l'heure, il y a une scène qui est assez brillante, je trouve qu'elle est extrêmement bien écrite, qui est extrêmement tenue rythmiquement, où les acteurs sont excellents et qui est assez maligne dans ce que la scène crée comme remous dans son propos. Et je pense que tout le film tente et pour moi réussit à certains moments de te faire ressentir, enfin, de te montrer la temporalité de la vie rurale.
Parce que cette nature, elle est séduisante, t'as envie d'y aller, t'es un peu comme dans la bête position du citadin, mais en même temps, le film te montre que cette nature est dangereuse et que tu peux pas t'y aventurer comme ça, et que ce n'est pas le territoire, quelque part, des hommes, en fait, qu'il y a une intrusion, en fait, qui est inhérente au fait d'être un homme au milieu de cette nature, et je trouvais ça super bien géré, quoi. Et la fin peut s'expliquer là-dessus, même si la fin reste avec beaucoup de points d'interrogation, et je suis d'accord avec toi là-dessus.
Ouais, mais justement,
qu'il y a une confrontation, une réalité, une réelle dissension, je vais dire, rythmique entre la vie rurale et enfin la vie entre la nature et la vie des hommes, quoi. Et ça, c'est quelque chose que le film rend bien.
Alors, je suis pas d'accord parce que rythmiquement, je pense que le film est sur le même rythme tout du long. Il n'y a pas une opposition entre le rythme de la campagne. Il y a une opposition entre la campagne et la ville. Mais il n'y a pas une opposition rythmique, à mon sens. Ouais, et pour le coup, cette opposition, tu m'excuseras, elle est quand même sacrément caricaturale, le coup. Le bonhomme de la campagne qui sait bien tailler ses bûches, et l'autre qui ne sait pas tailler ses bûches et qui a très envie de tailler ses bûches et qui est très content quand il a taillé sa bûche, tu m'excuseras, mais je veux dire, il faut en passer par là. Et quand je parlais aussi du problème de la précipitation de la fin, c'est qu'à la fin, tu ressors du film, tu te dis, mais what the fuck ? On est quand même dans une situation, je suis obligé, on va un peu spoiler le film, c'est on se retrouve avec tout d'un coup le personnage de la petite fillette dont tout le monde est à la recherche, qui est retrouvée à la toute fin du film, elle est face à un cerf, et ce cerf est blessé, donc on peut supposer que le cerf va l'attaquer, et alors la réaction de l'homme de la ville qui ne comprend rien à cette dure nature, s'avance pour essayer d'intervenir, et le père, au lieu juste de le retenir, va l'étrangler jusqu'à suffocation. Donc on est quand même dans une logique absolument aberrante en termes de comportement de personnage, qui fait que je pense que quelle que soit l'avis qu'on ait vis-à-vis du film, on n'en sort pas satisfait à ce moment-là, quoi.
Non, ça, je suis d'accord.
Oui, bien sûr.
Et tu mets le doigt dessus en parlant de précipitation dans un film qui ne fait que éviter la précipitation. On a l'impression, en effet, qu'il y a un film qui se tient avec ses hauts et ses bas sur 1h40, et puis qu'on a 10 dernières minutes qui auraient dû, dans la rythmique du film, en fait, en durer une demi-heure. Sauf que c'est beaucoup trop ramassé à ce moment-là.
Très bien, je pense que nous ne saurons pas nous réconcilier sur le film de Ryusuke Hamaguchi. Mais donc,
on n'est pas très fâchés.
On n'est pas très fâchés ? Non, on n'est pas très fâchés. Mais bon, on va quand même dire à Manu qu'il devra aller voir le prochain Ryusuke Hamaguchi.
J'irai parce que j'ai le souvenir d'un précédent film qui m'a plutôt enthousiasmé, mais j'irai avec beaucoup plus de réserve que je ne suis allé sur celui-ci.
Moi, je préfère celui-ci à celui que nous avions chroniqué précédemment. Soit, messieurs, nous allons maintenant écouter l'inspecteur.
Écoute, pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chiras.
Voici donc venu l'heure des conseils, et Manu, as-tu un conseil à nous prodiguer ?
J'ai pas de conseil, non, effectivement, j'ai pas de conseil. Il y a juste un film que j'ai vu récemment avec l'ouverture du BIF, qui était donc le film d'ouverture, qui était le Civil War d'Alex Garland, scénariste de Danny Boyle, aussi réalisateur
Ex Machina.
Ouais, aussi réalisateur d'Ex Machina. J'ai oublié, je crois, Annihilation, c'est son film pour Netflix. Puis récemment, Men, c'est ça, son dernier film.
Ah oui.
C'était pour moi un film assez intriguant parce que je me disais, pour le coup, il y a quelque chose d'intéressant à jouer, d'autant plus dans la période que les États-Unis sont en train de vivre. Le problème, c'est que c'est quand même un film qui élude complètement son sujet. C'est, en fait, le sujet de l'exercice, c'est le rapport très particulier qu'ont les photographes de guerre ou les reporters de guerre à cette sorte d'adrénaline vis-à-vis de la violence. C'est quelque chose qui, pour moi, était appréhendé et apprécié de manière bien plus fine par un film comme Salvador d'Oliver Stone. Et donc c'est vraiment un gros problème parce que le rapport à l'image, à la violence, il est extrêmement schématique et vu et revu et archi-revu. Et putain, c'est un film qui porte juste pas bien son titre, quoi. Moi, Civil War, je m'attendais vraiment à que ça traite de toutes ces problématiques-là. En plus, on est quand même dans un pays qui a réellement était au bord de l'insurrection, quoi, aux dernières élections, et qui a priori ça s'est pas bien remis depuis, quoi. Et de la part en plus d'un cinéaste anglais qui a donc un point de vue un petit peu extérieur sur le sujet, je m'attendais à un film beaucoup plus poil à gratter, beaucoup plus percutant en fait sur le sujet. Et c'est un film qui tu sens qu'il prend beaucoup de pincettes avec le sujet, et c'est assez étonnant en fait.
Alex Garland, cinéaste peut-être surestimé, qu'en penses-tu, Lucien ?
Oui.
T'as quelque chose à conseiller, Lucien ?
Un truc musical, j'ai découvert hier soir. J'ai écouté son album une fois, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, le mec s'appelle, en plus je sais pas prononcer son nom, mais il s'appelle McGee, un truc comme ça, MK.GE. C'est une sorte de... assez indéfinissable, mais... c'est de la pop folk, un peu lo-fi comme ça, mais c'est des mélodies proches de ce que pouvait faire The Police avec un côté un peu craspec, comme ça, beaucoup, beaucoup plus craspec que The Police, pour le coup. Et un côté assez moderne, presque à certains moments proche de ce que pouvait faire Frank Ocean ou des trucs comme ça. C'est très étrange, c'est très peu produit, entre guillemets, mais ça marche assez bien.
Mais qu'est-ce que vont faire nos auditeurs et nos auditrices cinéphiles de ton conseil mélomane ?
Mais que dalle !
Très bien, eh bien, merci messieurs.
Tu crois te défiler là, Olivier, c'est ça ?
J'ai rien de spécial à conseiller. Si, peut-être, je vous conseille d'écouter une dramatique radiophonique, une fiction radiophonique qui s'appelle Événement, qui a été réalisée par une jeune femme qui s'appelle Pascal Brichoux. Et c'est une fiction d'anticipation où, dans un monde où il y a plus beaucoup d'air, et en fait le personnage principal est pris au cœur d'une émeute, et c'est super bien, ça dure une vingtaine de minutes, c'est vachement bien. Voilà, donc ça s'appelle Événement avec un S, c'est Pascal Brichoux, vous pouvez l'écouter sur Radiola. C'est un site qui répertorie pas mal de documentaires et de créations sonores en tout genre. Voilà, fiction d'anticipation, radiophonique, super chouette. Inspirée par La Jetée et Game of Thrones, des dires même de la réalisatrice.
Ouh là là. On dirait le pitch d'un film de Bonello.
Voilà. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci Lucien. Merci Manu. À très bientôt, chères auditrices, chers auditeurs. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, sur Podcast Plus, Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, toutes les applications de podcast. Nous avons notre propre site, transmissionlepodcast.com. On est aussi sur les réseaux Instagram, Facebook, Mastodon, Blue Sky. Voilà, tout ça, toutes ces choses qui m'échappent. À très bientôt, chères auditrices, chers auditeurs. Likez-nous, envoyez-nous des étoiles, des commentaires. On vous aime. Kiss, kiss.